بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي شفاعي عن الإسلام ونبيكم منسي depuis deux ou trois mardis, l'étude des noms d'Allah Azza wa Jal. Et on avait commencé par une introduction, un muqaddimah, concernant l'importance d'étudier les noms d'Allah Azza wa Jal, de connaître qui est notre Seigneur, qui nous adorons, et de le connaître par le biais de ce qu'il nous a accordé comme connaissance. Parce qu'on comprend bien qu'une créature ne pourra jamais connaître parfaitement le Créateur. Même le prophète alayhi salatu wassalam, lors du voyage nocturne, lorsqu'il a rencontré Allah azza wa jal, il y a divergence. Certains savants disent qu'il a vu Allah, d'autres savants disent qu'il a entrevu une lumière. Il y a divergence. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aucun être humain, ange, aucune créature, je voulais dire, ange ou ins, ange ou être humain, ne pourra jamais réellement connaître Allah Azza wa Jal. Et il est dit également dans les descriptions du Jannah, Allahumma ja'alna min ahliha, que lorsqu'Allah Rabbul Izzah voudra rencontrer les gens du paradis, à un moment donné, une lumière va jaillir du sommet du paradis. On ne parle plus de ciel, parce que le paradis est au-dessus du ciel, mais va jaillir au-dessus du paradis. Et cette lumière-là, elle provient d'Allah Azza wa Jal. Et dans les textes, il est dit, si Allah n'avait pas décidé qu'il reste en vie, ben, toutes ces personnes seraient brûlées par cette lumière qui émane d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire que même dans le Jannah, dans le paradis, il y a encore une frontière, il y a encore une limite. Même si, selon la majorité des Ahli Sunnah, Aqid, Ahli Sunnah, Jama'a, jour de Qiyamah, les croyants, dans le Jannah, les croyants pourront voir et contempler Allah Azza wa Jal, mais là également, il faut qu'ils puissent supporter cette lumière. Parce qu'Allah Rabbul Izzah est bien au-dessus de tout ce que nous pouvons imaginer. Donc connaître Allah par le biais de ce qu'il nous a donné comme ilm, qu'il nous a donné comme révélation, et qui correspond à notre niveau, qui correspond à notre capacité de comprendre. Ensuite, il y a deux extrêmes. Il y a l'extrême de ceux qui voudront connaître Allah Azza wa Jal et se dire qu'en connaissant les sifat, ben on peut vraiment identifier comment est notre Seigneur, ce qui est impossible, comme on vient de le dire. Et puis il y en a d'autres qui, par un excès de pudeur, ils vont dire que nous, on n'a même pas le droit de demander comment est Allah. Il n'a jamais été question de demander comment est Allah. La question, c'est de savoir, d'essayer de comprendre la grandeur d'Allah comme il attend de nous de comprendre. D'essayer de comprendre la clémence d'Allah comme il le révèle dans les versets du Coran, d'essayer de comprendre le maghfira, le pardon, l'étendue du pardon d'Allah et sa clémence, comme il a révélé dans le Coran, afin que notre cheminement vers notre Seigneur soit un cheminement correct. Parce qu'une personne qui ne croira jamais en la clémence d'Allah, une personne qui n'a jamais réalisé la clémence d'Allah et son pardon qui est sans limite, est-ce que cette personne qui connaît un parcours difficile dans sa vie ou un moment d'égarement de péché, est-ce que cette personne pensera un jour à lever les mains et demander pardon à Allah Azza wa Jal? Une personne qui ne connaît pas une des sifat qu'on va essayer de voir, pas ce soir mais la prochaine fois, qu'Allah Rabbul Izzah il latif, Allah agit de la meilleure des façons avec ses serviteurs. Mais la personne qui ne connaît pas cette qualité d'Allah, cette personne va penser qu'à chaque fois qu'il lui arrive une difficulté, c'est une punition de la part d'Allah. Mais c'est terrible ça. C'est terrible, c'est invivable que de se dire que mon Seigneur me punit tous les jours. Alors que j'essaie de me prosterner 5 fois par jour, il envoie ses châtiments tout le temps. Ça c'est le cas où une personne ne connaît pas le sens du mot latif. Maintenant quand un croyant a appris et il connaît cette qualité d'Allah Azza wa Jal, il réalise que tout ce qui lui arrive ça vient d'Allah et c'est la meilleure des choses qui puisse m'arriver, c'est là une preuve de la clémence d'Allah qui veut du bien pour moi. Vous voyez, notre relation avec Allah va complètement changer à partir du moment où on va essayer de connaître Allah Rabbul Izzah par le biais des ayat du Coran. Il y a un cheikh qui s'appelle Mustafa, cheikh Mustafa Kastid, qui est en Belgique, qui a fait un séminaire. Et il fait des séminaires, alhamdoulilah, avec Cheikh Mohamed et Mufti Shakil à Paris. Et dans le séminaire qu'il a fait ce week-end, qui avait pour titre Sajidin, si je ne me trompe pas, oui, qui parlait de la Salah, il a cité une parole magnifique d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, concernant cinq catégories de personnes qui prient. Des personnes qui prient tous les jours, cinq fois par jour. La question ne se pose pas à quelqu'un qui prie pas. Non, des gens qui, comme nous, alhamdoulilah, il prie cinq fois par jour. Il dit, parmi ces personnes qui sont réguliers dans leur prière, on distingue cinq catégories de personnes. Il y a celui qui néglige, donc la première catégorie, c'est celui qui n'est pas régulier. Donc, on va dire, il y a quatre qui concernent ceux qui sont réguliers. Il y a une catégorie, al-mu'aqqab, c'est-à-dire celui qui néglige la prière parfois. Et même quand il le fait, mais il le fait sans concentration, sans dévotion. On ne va pas détailler les catégories. Hein. Là, dit l'autre catégorie, deuxième personne, il respecte la prière dans sa forme, mais il n'est pas concentré. Et il a qualifié de coquille vide. Un peu, c'est une réalité, d'accord. Il dit quelqu'un qui prie, ses cinq prières, il est là, il est présent, il peut être parfois même au premier rang, il fait les efforts le matin, Fajr, en ce moment, Fajr à 5h, subhanallah, 5h10, 5h15, il vient, mashallah, mubakkiran, il est là au premier rang. Et cette personne, Allah Musta'an, prie, se tient debout, mais la personne, malheureusement, n'a aucune concentration, aucune dévotion. Et là, il a donné l'exemple de la coquille vide, parce que la personne est là, la forme y est, mais il n'y a rien dedans. À nous de voir dans quelle catégorie on est. J'espère qu'on n'a pas déjà trouvé sa catégorie. On n'a pas déjà trouvé sa coquille, j'espère. Troisième catégorie, al-mukaffar anhu. Il se bat contre ses pensées pour qu'elle ne ternisse pas sa prière, Allah le rétribue de ses efforts. C'est déjà pas mal. Ça, c'est déjà pas mal. Ça, c'est la médaille de bronze. Cette personne, dans sa salah, déjà elle est régulière. Dans sa salah, il y a plein de waswasa. Par exemple, tu as une pensée, prochain charolais, on va acheter, prochain maclin, prochain... Il pense à plein de choses. Mais à chaque fois que... Il y en a d'autres qui pensent à Marseille, il y en a qui pensent à ce qu'il va commander dans le magasin, d'autres pensent... Nous restons des êtres humains, oui ou non? Et là, tu penses que les enfants ils sont malades, il faut prendre tel médicament. Après Zohar, madame a dit passe à la pharmacie. Nous restons des êtres humains. C'est ce qui nous différencie des malaïka. Et ce combat contre nous-mêmes, c'est ce combat-là qu'Allah Rabbul Izzah aime. Cette lutte contre nos passions, mais cette lutte également contre nos faiblesses. Parce qu'il y a le. Et puis vous allez dire que les passions, c'est les faiblesses. Oui, si on veut philosopher, oui. Mais nous, on simplifie les choses. Lutter contre l'instinct qui nous mène vers le péché. C'est là la base de la taqwa. Mais lutter contre nos faiblesses. On a du mal à se réveiller tôt. On a du mal à quitter les plaisirs, hein, la famille, les biens, ou la télévision, le canapé confortable, le repas, pour venir à la prière en jama'at. Ça, ce sont là des faiblesses. Lutter contre des faiblesses, tout ça, ce sont des mujahadas qui sont appréciés par Allah Azza wa Jal. Donc, cette personne qui a cette maladie, parce que ça s'appelle une maladie spirituelle, ce qui voudrait dire que nous sommes tous malades, sauf ceux qui sont au-dessus du lot, que la personne qui ne trouve pas la concentration dans la prière, c'est une maladie spirituelle qui nécessite un ilaj, qui nécessite un remède. Et justement, il dit que cette personne, c'est la troisième catégorie de personnes, dans sa prière, elle pense à plein de choses, mais à chaque fois qu'il voit que son esprit commence à vagabonder, à fuguer, pour certains même c'est des fugues, ben, il revient, il essaie de se concentrer. Il essaie de revenir vers la lecture, vers les versets, et à se rappeler qu'il est devant qui ? Il est devant son Créateur. Et c'est là la clé. Quand il ramène son esprit, c'est par pudeur, par amour et par crainte d'Allah, par respect pour son Seigneur, je ne peux pas me permettre d'être devant Allah et penser à mille et une choses. Alors que les deux premières catégories là, ceux qui ne viennent pas parfois à la prière, est-ce qu'ils pensent à la grandeur d'Allah Azza wa Jal ? Est-ce qu'ils pensent à son devoir envers son Seigneur, aucunement. Et celui qui, dans toutes les prières, il est déconnecté. La coquille vide, cinq prières. Fajr, il pense déjà à autre chose. Wallahu musta'an. Mais cette personne-là, en fait, ne manifeste aucun respect pour son Seigneur. Parce qu'il n'a fait que acte de présence, sans jamais penser devant qui je suis en train de me tenir. Hada. Alors que la troisième catégorie, ben, quand il a l'esprit qui va un peu ailleurs, il essaie de ramener la dévotion, la concentration. Ensuite, il dit, Al-Muthab, le récompensé. Il est très concentré sur ce qu'il fait et sur ce qu'il dit, et il a la présence du cœur. Allahumma ja'alna minhum. On a l'impression que c'est déjà le summum, ça. Ouais. C'est la personne qui, lorsqu'il commence à prier, mashallah, il trouve la concentration. Et donc, cette prière, c'est vraiment l'objectif est atteint. Parce que la prière, n'oublions pas, c'est un cadeau de la part d'Allah, oui ou non? La prière, ce n'est pas un fardeau. La prière, ce n'est pas une obligation. On va dire, oui, selon l'istilah, c'est une obligation, c'est farz, wajib, comme on l'appelle. Mais c'est avant tout un cadeau qu'Allah nous a accordé. Et Cheikh Mustafa, il le rappelait également de son séminaire, il y a les écrits sur les réseaux sociaux, il dit, voyez, Allah Rabbul Izzah a amené le prophète sallam au plus haut, là où aucun être humain ne peut approcher, aucun ange non plus ne peut approcher en dépassant le Sidratul Muntaha pour y accorder la prière. Preuve que la prière, c'est quelque chose qui élève l'être humain. Donc cette personne trouve la concentration à chaque fois et l'objectif de la prière sera atteinte. La personne va trouver une connexion régulière avec Allah à chaque fois qu'il va dire Allahu Akbar. Et de cette façon, lorsque la personne a complété sa salat, il y a un regain de foi, il y a une augmentation de iman, ce qui fait que dans la vie de tous les jours, l'éloignement des péchés deviendra facile. L'accomplissement des bonnes actions, ce sera quelque chose de tout à fait normal. Et le summum, al-muqarrab, qu'il a traduit par le rapproché, mais là il n'a pas donné beaucoup de détails, il a dit le meilleur, l'élite de l'élite, celui qui trouve concentration, réflexion et connexion directe avec Allah Azza wa Jal. On pourrait dire que ça se rapproche des deux catégories, peut-être que dans le texte en arabe il y a un peu plus de détails, on va voir ce que Ibn al-Qayyim a dit, plus de précision, mais on pourrait dire que là c'est la situation des sahaba, ridwanullahi alayhim ajma'in, et celle bien sûr du Prophète qui avait dit que la fraîcheur de ses yeux c'est la prière. Alors maintenant, la question qu'on se pose, mais qu'est-ce qui fait que on se situe parmi les muqarrabin ou alors parmi la dernière catégorie, ceux qui font preuve d'insouciance? Mais c'est en fonction de notre connaissance de notre Seigneur. Les ulama disent que plus le croyant connaîtra Allah Azza wa Jal, plus il donnera de l'importance aux prières. Et également, lorsqu'il se présentera pour les prières, que ce soit à la mosquée, que ce soit devant la Kaaba, il y a des gens devant la Kaaba, ils ne sont pas concentrés. Il y a des fois, on se dit que bon, ben je sors la mer, comme dit, je quitte le fitna, je vais dans un endroit qui est pur et je vais obtenir, je vais retrouver cette spiritualité. Mais il y a des fois, on se dit que ben non, faites un tawaf, vous tournez autour de la Kaaba, aucune concentration, vous regardez le combien de temps il reste, voilà, il y a trop de monde, vous pensez à plein de choses. Au lieu d'être concentré, vous regardez les gens qui passent, les gens qui, comment il est habillé, comment il fait ça. On a déjà expliqué ça dans d'autres programmes, ça c'est vraiment khasar, uzma. Ça c'est vraiment terrible. Je veux dire que ce n'est pas le lieu qui fait la piété de la personne. Ce n'est pas non plus la période qui fait la piété de la personne. Combien de personnes durant les nuits impaires de la dernière décade du mois de Ramadan s'ennuient sur le tapis de prière. Ils ne trouvent pas les mots pour demander doua à Allah Azza wa Jal. Ils peinent pour qu'une petite larme coule de ses yeux. Ça c'est grave ça. C'est pas la période de Ramadan qui te rend pieux. C'est pas Makka, Madina, Arafat, Muzdalifa qui te rend pieux. C'est la connexion que tu as avec ton Seigneur et la qualité de cette connexion. Quand on connaît notre Rabb, on connaît devant qui on se prosterne, on connaît pour qui on tourne cette fois autour de la Kaaba, là on trouve la connexion avec Allah Azza wa Jal. Et les ulama disent que pour être parmi la plus haute des catégories, ceux qui ont la meilleure compréhension, la meilleure concentration pendant les prières, c'est la solution, c'est la connaissance de notre Seigneur. Voilà, on a, subhanallah, maintes et maintes fois répété plus ou moins les mêmes paroles pour qu'on soit persuadé que jusqu'à maintenant, si on n'avait pas appris les noms d'Allah Azza wa Jal, on peut dire qu'on a raté pas mal de choses. Et cela, c'est peut-être ressenti dans les qualités de nos a'mal, de nos bonnes actions, et cela, c'est certainement ressenti dans la dévotion, la concentration, comme on a vu pour les prières, mais également de l'istiqama, de la fermeté. Qu'est-ce qui fait qu'après le Ramadan, il y a un relâchement? Que celui qui connaît Allah, il n'y a pas un seigneur du mois de Ramadan et un seigneur des 11 autres mois, c'est le même Rabb. Sauf que durant ce mois, il apprécie plus nos bonnes actions, il nous rétribue plus, il nous donne d'autres a'mal, d'autres actions à accomplir. C'est le même seigneur. Donc, à partir du moment où la personne ne connaît pas Allah, il ne trouve pas non plus istiqama, et tout ça, ce sont des qualités de foi qui nous manquent. Et l'origine de ce manquement, c'est le fait qu'on ne connaisse pas Allah Azza wa Jal. Ash-Shawkani rahimahullah. Qui est Ash-Shawkani? Ash-Shawkani. Salih Ash-Shawkani. Abdurrahman. Nabil. Ash-Shawkani, ya Mashaikh. Ash-Shawkani fait partie de la, j'allais dire, une jeune génération de Mufassirin. Jeune, c'est pas, il n'est pas contemporain. Mais c'est les générations qui sont venues bien après les Ibn Kathir, les Qurtubi, et ainsi de suite. Un excellent Mufassir. Ash-Shawkani, rahimahullah, lorsqu'il parle, lorsqu'il commente, on va dire, lorsqu'il commente les versets où il y a les sifats d'Allah Azza wa Jal, il insiste sur les commentaires de ces versets, il dit فَإِنَّ الْعِلْمَ بِاللَّهِ وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ أَشْرَفُ الْعُلُومِ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَأَوَّلُهَا بِالتَّفْضِيلِ عَلَى الْإِسْتِحْقَاقِ وَأَرْفَعُهَا قَدْرًا بِالْإِتِّفَاقِ. Magnifique citation dans Fathul Qadir, l'ouvrage de Ash-Shawkani. Il dit que étudier, essayer de connaître qui est Allah Azza wa Jal par le biais des versets du Coran qu'Allah nous a accordé, ça, ça fait partie de la meilleure, c'est certainement la meilleure des ilms, des sciences. Il n'y a pas une science plus profitable, il n'y a pas une science qui mérite autant qu'on y consacre du temps que la connaissance qui a pour but de nous faire connaître qui est Allah, parce que cette connaissance-là donnera un sens à notre spiritualité, à chaque acte d'adoration. Même quand on donne 1 euro à une personne démunie, ben on sait, on donne un sens à cette sadaqa et on sait qu'on le fait pour Allah, on a conscience qu'Allah en ce moment me voit, qu'Allah me rétribue, ainsi de suite. Tout ça, ça crée l'atmosphère spirituelle et donne un sens à chaque acte d'adoration. Hada. Et quand il parle de Ajallul Ulum, la science qui a le plus de mérite, wa a'zamuhu wa akbaruhu, après il y a plein de qualifications, la plus grande des sciences, il dit parce que fahuwa Allahu alladhi la ilaha illahu rabbul alamin. Imaginez qu'on essaie de connaître qui est le Seigneur des mondes, ce Seigneur qui a envoyé l'ensemble des anbiya alayhi salatu wa salam, ce Seigneur qui nous donne la vie, qui nous donne la mort et auprès de qui nous retournons. Est-ce que il ne mérite pas qu'on donne du temps pour connaître Allah Azza wa Jal et connaître celui pour qui on consacre notre vie? Parce que quand on dit qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, que nous appartenons à Allah, mais nous devons connaître à qui nous appartenons. Autrement, ça va être une succession de rituels, d'actes d'adoration auxquels on ne sera donné vraiment un sens. Et il continue avec le verset sabbih isma rabbikal A'la, glorifie le nom de ton Seigneur, le Très-Haut. Et là, il dit, « فَالْعِلْمُ بِالْعَلِيِّ الْأَعْلَى هُوَ الْعِلْمُ الْأَعْلَى » Un peu plus technique. Il dit, « Connaître celui qui est le Très-Haut, ben, cette connaissance-là, c'est certainement la connaissance la plus haute. La meilleure des connaissances, c'est celle qui te permet de connaître qui est « Al-A'la ». Celui qui est le plus haut, c'est-à-dire connaître qui est Allah Azza wa Jal. Hada. Deuxième point, les Mufassirin disent également que Allah Azza wa Jal a créé l'homme et la création d'une manière générale a fait deux choses. Pour que l'homme connaisse qui est Allah et l'homme adore Allah Azza wa Jal. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِي يَعْبُدُونَ. Nous avons été écrits pour adorer Allah et pour connaître qui est notre Seigneur. Elle dit donc, ces deux connaissances-là, elle dit l'ibad en général, les croyants, mashallah, ils essaient de consacrer leur temps. Maintenant, le temps qu'on va consacrer pour connaître qui est Allah, c'est un temps qu'on consacre pour l'objectif de notre vie, un des objectifs de notre vie, connaître notre Seigneur pour faire son adoration. Donc, être persuadé que quand on passe du temps pour apprendre les qualités d'Allah, vraiment, on est en train de concrétiser un des objectifs de notre création. Que l'homme, que la créature connaisse qui est son créateur. Hada. Puis il cite le verset de Sourate At-Talaq, Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahun yatanazzalu al-amru baynahunna lit'lamu, afin que vous sachiez anna Allaha ala kulli shay'in qadir, qu'Allah est capable de tout, qu'Allah est omnipotent, wa anna Allaha qad ahata bi kulli shay'in 'ilma. Et la suite du verset concernant la profondeur du 'ilm, de la connaissance d'Allah Azza wa Jal. Le verbe qui nous intéresse, لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهِ, afin que vous sachiez, pour que l'homme apprenne à connaître son Seigneur et connaisse la puissance, la force et la connaissance d'Allah Azza wa Jal. Donc il conclut en disant, فَالْإِشْتِرَالُ بِذَلِكَ إِشْتِرَالٌ بِمَا خُلِقَ لَهُ الْعَبْدِ. Y consacrer du temps, c'est consacrer le temps pour la chose pour laquelle nous avons été créés. Également, dans le Coran, il y a beaucoup de rappels et des ordres. Amr, fa'alamu anna Allah azizun hakim, wa'alamu anna Allah bi kulli shay'in alim, wa'alamu anna Allah bima ta'amaluna basir. Je peux en citer une quinzaine, tous ces versets qui commencent par wa'alamu et qui se concluent par des sifats d'Allah. I'alamu, c'est un verbe à l'impératif. Et l'impératif, ça donne quoi comme sens? Un ordre. Donc Allah Rabbul Izzah ordonne à l'être humain de connaître, de le connaître. C'est un ordre de savoir qu'Allah est clément, miséricordieux. C'est un ordre pour le serviteur de savoir qu'Allah est connaisseur, est capable de tout, et c'est Allah qui dirige tout. Donc celui qui va vers cette connaissance, il remplit un de ses devoirs envers Allah. Il dit que les versets qui vont de ce sens avec fa'lam ou wa'lamu et ensuite des sifats d'Allah, il y a 30 versets qui vont de ce sens. Hada. Également, lorsqu'on analyse les meilleurs versets du Coran, quels sont les meilleurs versets du Coran? Parmi les versets qui ont le plus de vertu, il y a Ayatul Kursi. Il y a les derniers versets de Al-Baqarah. Et ainsi de suite. Il y a, on pourrait dire également, les derniers versets de Surat Al-Hashr. Wallahu alladhi la ilaha illahu. Et en commentaire, les Mufassirin disent que les versets qui ont le plus de valeur, les versets qui sont le plus mis en avant, que le croyant doit lire régulièrement, ce sont justement les versets qui contiennent les noms d'Allah Azza wa Jal. Ça nous fait comprendre que un verset de lequel il y a répétition des noms d'Allah, ça fait partie des versets les plus importants. Regardez juste « Qul huwa Allahu ahad »« Allahu samad » Là on a des qualités de sifat d'Allah Azza wa Jal et c'est une des sourates qui vaut « thuluth » le Coran, qui vaut le tiers du Coran. Là on passe aux commentaires de d'autres catégories de savants. Là on était avec les Mufassirin. Là on passe avec des ulama de Aqidah. Lorsqu'il parle de « haqiqatul iman » la réalité de la foi, la réalité de la foi, il a dit وليس الايمان مجرد قول العبد امنت بالله من غير معرفته بربي. Il a dit il serait inconscient de penser que croire en Allah c'est uniquement dire je crois en Allah sans jamais connaître qui est Allah. Ce serait la foi y est, mais ce serait incomplète, ce serait totalement incomplet. La foi complète, c'est de dire je crois en Allah et de connaître qui est Allah Azza wa Jal. Bon, après ça c'est un peu plus technique, mais on a compris plus ou moins le sens. Et en conclusion, ces ulama al-aqidah disent que kullama izdada ma'rifatuka bi asma'ihi wa sifatihi izdada ma'rifatuka bi rabbik wa izdada imanuk. Plus tu connais ton Seigneur, ses qualités, ses noms, ses attributs, plus ta foi augmente et tu deviens un bon croyant. Et moins tu connais ton Seigneur, ben ta foi n'est pas complète. Et donc, on pourrait compléter en disant que la personne sera fragile face aux situations de péché. Et donc, son iman ne sera pas comme Allah Azza wa Jal attend du mu'min. On continue. Le ulama parle également de aqidah. On reste avec les savants de croyance islamique. Il dit « Asasu bina iddini al-iman billah ». Quelle est la base de la foi ?« Al-iman billah ». Lorsque l'ange Jibril alayhi salam demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'apparence d'un être humain, mal iman. Et lorsqu'il demande mal islam, dans les deux réponses, il y a iman en Allah. Quand il demande, le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond, bunya al-islamu ala khams. Il commence par shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah. L'attestation qu'il n'a pas d'autre Dieu à part Allah et que Muhammad est son prophète. Quand il pose la question mal iman, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va citer les six branches de la foi, et la première branche est Al-Iman Billah. Il dit, ben d'après vous, cette branche et ce pilier, La ilaha illallah ou Iman Billah, ça veut dire juste attester qu'il y a un seul Dieu? Attester juste qu'il y a un seul Dieu, ce n'est pas suffisant. C'est aller vers ce Seigneur, connaître qui est ce Seigneur pour faire son adoration. Et si on veut compléter la première branche de la foi, Iman Billah, avant de voir Iman Bil Malaika Bil Rasul, c'est vraiment d'aller dans ce sens, de connaître les versets qui décrivent la grandeur, la puissance, la générosité, la clémence d'Allah, et de le connaître de cette façon. Il y a d'autres commentaires, on ne va pas trop s'étaler. Je vois que vous êtes un petit peu fatigué aussi. Voilà. Également, Ibn Kathir, on revient avec nos mufassirin. Ibn Kathir, rahimahullah, dans ce tafsir, il dit, on en est à combien là? Mashallah, 24 minutes. Normalement, on fait 40, mais on a ramené le côté à 30. Parce que si on n'accélère pas, on sera encore dans l'introduction pendant un mois. Et on devait commencer Rahman ce soir. Mais l'introduction, pour moi, c'est le plus important. C'est la prise de conscience. La prise de conscience, je voudrais je ne vais pas dire le temps qu'on a perdu, ce ne serait pas correct de ma part de dire qu'on a perdu du temps jusqu'à maintenant, mais à côté de quoi on est passé. Et cette prise de conscience, moi-même, je l'ai eue durant ce mois béni de Ramadan, en faisant un dars sur Rahman Rahim, on s'est rendu compte que, subhanallah, l'effet que cela a immédiatement sur les cœurs et sur nos ibadas directement, c'est comme si que tu apportes à ta foi une carte mère, et que ça fait longtemps que tu cherches ça. Tu apportes à ta foi quelque chose qui était vital, et tout d'un coup tu comprends mieux ta prière. Après ça s'estompe malheureusement. Moins on apprend, moins on se reconnecte, après on finit par, wallah musta'an, retomber un petit peu spirituellement. Mais quelqu'un qui en permanence apprend les qualités d'Allah, wallahi l'azim, l'effet sur l'ibada, c'est immédiat. L'effet sur les soujouds, les prosternations, les invocations, les doigts, c'est flagrant. C'est du concret. Ça, c'est pas des thèses, des philosophies. Là, je dis dans l'introduction, même si on insiste, je sais qu'on répète parfois les mêmes choses, mais on a regroupé l'avis de différents savants, des mufassirin, des ulama aqida, et il est normal que leurs avis vont dans le même sens, mais pour qu'on voit que le monde musulman, l'ensemble des ulamas, parce que malheureusement, on a une conception très limitée de la religion. On a souvent, c'est comme si on a ouvert une petite lucarne, où on s'est dit qu'être un bon musulman, ou connaître l'islam, c'est connaître telle chose, telle chose. Mais parfois, on passe à côté d'autres points qui font partie de notre croyance, et à propos desquels il y a, subhanallah, quantité de versets du Coran, et on se dit, mais comment est-ce qu'on peut laisser ça, et on peut mourir, subhanallah, sans connaître qui est Allah, alors qu'on a fait 25 hajj, 45 umrah, et je ne sais pas combien de ramadan, 55 ou 60 de notre vie. Au moins on aurait su pour qui je jeûne, pour qui je fais le suhur, je fais l'iftar, pour qui je fais ces udhiyah, le qurbani, connaître Allah. Assurément, quand tu coupes, qu'on coupe un gros bœuf ou un petit mouton, quand on sait qu'on fait ça pour Allah, attends, ça bouge, hein. Là-dedans, tu le ressens, l'ikhlas. On ressent la sincérité. Donc, ça, c'est l'objectif. C'est pour ça que parfois, on insiste un peu sur l'introduction, mais c'est muhim. Là, donc, on aime les kathir. Là, on a vraiment les grands savants de la Ummah ibn Kathir. Lorsqu'ils commentent le verset Innama yakhshallaha min ibadihil, ulama, ceux qui, traduction approximative, ceux qui craignent vraiment Allah Azza wa Jal, ce sont les savants. Ils commentent dans ce fatir Ay, Innama yakhshahu haqqa khashyatihi. Il dit que ceux qui craignent réellement Allah, ce sont les savants qui connaissent Allah. Les savants qui connaissent les noms, les attributs d'Allah. Eux, ils ont la crainte d'Allah. Ce n'est pas juste le cumul de connaissances religieuses. Une personne peut, je ne sais pas moi, il y a des gens qui écrivent des livres sur la religion. D'accord ? On va dire que waouh, sur le plan médiatique, ça prend une certaine ampleur. Quand on écoute ces personnes dans des interviews, on dit waouh, ça tient debout, c'est du lourd. Mais le tout, c'est pas de cumuler de la connaissance, mais le plus important et la base, c'est que la personne connaisse qui est Allah. Quand on connaît Allah, là on a khashyatullah. Et mourir sans éprouver khashyatullah, c'est une vie terrible, ça. Mourir sans jamais avoir ressenti la crainte d'Allah, vous pouvez être habitant de la Mecque, habitant de Médine, si on vit sans éprouver l'amour et la crainte d'Allah, qu'est-ce qu'on a fait de notre vie? Même si les actes d'adoration étaient accomplis, c'est un cœur qui restera vide, c'est un cœur qui ne trouvera pas l'amour d'Allah Azza wa Jal, et ce serait vraiment khassar, ce serait vraiment dommage. Donc il dit que innama yakhshallaha haqqa khashyati, ceux qui craignent réellement Allah, ce sont ces savants qui connaissent Allah Azza wa Jal. Et nous devons faire l'intention d'être, ou alors de prendre le chemin, de faire les efforts pour être parmi ces savants qui vont apprendre, qui vont connaître Allah Azza wa Jal. Hada. Maintenant, on revient à Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Il y a encore pas mal de points à citer concernant l'importance de cette connaissance. Il dit que l'ensemble des rusuls, l'ensemble des prophètes, alayhim as-salatu was-salam, étaient envoyés sur cette terre avec les mêmes messages. Et parmi ces messages, ta'rifur rabb al-mad'u ilay, enseigner à la personne, à la umma, qui est leur Seigneur et qu'ils doivent adorer. Ensuite, leur faire comprendre le chemin qu'ils doivent prendre pour obtenir le contentement de ce Seigneur, c'est-à-dire les actes d'adoration. Et troisièmement, ta'rifuhum ma lahum ba'da al-wusul ilayhi fidari karamatihi min al-na'im, leur expliquer qu'est-ce qui leur sera attribué, donc comme récompense, s'ils ont connu Allah et ils ont suivi le chemin qui les amène vers Allah, mais qu'est-ce qu'il y aura comme récompense? Il dit que l'ensemble des sharia, ça tourne autour de ces points. Il dit donc, un des points basiques, et c'est le premier point, que le mad'ou, la personne à qui la prêche est... Et la personne qui est concernée par la prêche connaisse qui est son Seigneur, afin que la deuxième étape, le chemin qui mène vers Allah, ben c'est il y a une clairvoyance. C'est pas qu'il saute l'étape, il connaît pas qui est Allah et il va directement vers le chemin qui mène vers lui. Certes, il va faire les actes d'adoration, mais comme à la base il connaît pas son Seigneur, il y aura quelque chose de bancal. Ce sera pas complet. Ah, on va s'arrêter à la fois ce soir, Inch'Allah. Je pense que c'est suffisant. On en a assez dit. Et il reste encore pas mal de points sur l'introduction. Non, il y en a encore beaucoup. Il y en a encore énormément, subhanallah. En fait, ça, c'est... On a repris l'ouvrage d'un grand alim qui a écrit une thèse. C'est un doctorat en aqidah, en croyance islamique. Et là, il a essentiellement insisté sur l'importance de connaître les noms et les sifats d'Allah Azza wa Jal, avec parfois des détails techniques qui nous dépassent un petit peu. On essaie de simplifier les choses, mais Inch'Allah, de ne pas passer à côté de cet enseignement. Et Inch'Allah, on continuera encore peut-être un mardi. Là, on va aller des trucs un peu plus précis et on commencera Inch'Allah Azza wa Jal, le sifat qu'on récite le plus souvent dans une journée. Ce sont quels sifats? Rahman, Rahim. Et si on compte, j'essaie de compter, j'ai pas réussi, combien de fois un musulman il dit Rahman, Rahim par jour dans chaque bismillah, donc avant suratul fatiha et avant lire chaque sourate de la namaz, de chaque rakat, d'accord, dans al fatiha alhamdulillahi rabbil alamin ar Rahman, Rahim. Maintenant comptez, pas uniquement les namazes obligatoires, les namazes qui sont la fille, les witr et ainsi de suite, on peut arriver à 100 au moins. Maintenant, si quelqu'un amplifie toutes ces sunnan, rawatib, les nafil, ça dépasse largement le chiffre 100. Et les savants disent que d'après vous, si c'est la qualité qu'Allah Azza wa Jal a demandé à ce que l'homme récite et lise le plus souvent, c'est que il y a tout un intérêt à ce que le mu'min connaisse les qualités de la clémence et la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Et on va voir exactement pourquoi est-ce qu'il est essentiel de commencer par Rahman Rahim pour, Inch'Allah, construire une relation sincère avec notre Seigneur. Ma tawfiq illa billah, subhan rabbika rabbil izzati amma yasifuna salamun ala al-mursaleen, walhamdulillahi rabbil alamin, jazakum khair.